Les rendez-vous de l'information.
Jean-Joseph Perronne. Nous vous proposons ce soir la deuxième partie de l'entretien qu'a eu Jean-Joseph Perronne avec Claude Souquet, écrivain. Nous vous avons publié déjà la semaine dernière la première partie.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir l'écrivain couseranais que tout le monde connaît, Claude-René Souquet. Claude-René Souquet qui a publié il y a déjà quelque temps, maintenant peut-être un an, un ouvrage qui s'appelle Guillaume Bosque, chevalier de la vicomté du Couseran. Donc c'est Claude-René Souquet et c'est aux éditions Nombre 7. Donc Claude Souquet, bonsoir.
Bonsoir.
C'est Claude-René Souquet ou Claude?
Claude-René Souquet.
Claude-René Souquet, voilà. Donc c'est un nom tout à fait riégeois et même couseranais. Alors,
les barons du Nord vont installer le droit d'aînesse, alors que dans le Sud régnait le droit successoral.
Voilà, oui.
C'était deux visions de la société. Et déjà, donc, on avait une guerre sociétale entre le Nord et le Sud.
Voilà, donc c'était, cette croisade était dirigée contre les albigeois, c'est-à-dire surtout contre les cathares.
Les cathares,
voilà. Et je rappelle aussi, pour bien préciser, pour bien cerner le problème, si vous me permettez,
allez-y.
Je voulais simplement dire que le vicomte du Couseran était le vassal du comte de Comminges, et que le comte de Comminges était le suzerain. Donc oui. Je pense que là, c'est quand même important, parce que ça traduit une suggestion, une soumission, en quelque sorte, de la vicomté par rapport au comté de Couseran. Et donc, revenons, donc c'était la période donc des croisades contre les
cathares.
Voilà. Et donc, est-ce que vous avez fait intervenir la bataille de Montségur?
Oui, c'est sur Montségur que se termine le livre, et mon héros Guillaume revient à Saint-Girons et il se consacre à la vicomté, il est chevalier de la vicomté et il se consacre aussi à son épouse.
Alors, quel était le siège de la vicomté à cette époque-là, au temps de
Au départ, il y a eu le château de Chunon.
Voilà, oui.
Et ensuite, ils sont descendus à la cour. Et ce qu'on appelle le palais des vicomtes actuellement est venu plus tard.
Voilà.
Il a été construit plus tard.
Il a été construit. Et les derniers seigneurs du château des vicomtes de Saint-Girons, en fait, étaient des seigneurs de Saint-Girons. Donc il y a eu, là aussi, il y a de nombreuses polémiques sur le rôle qu'a joué le château des vicomtes du Couseran.
Oui.
Mais
c'est venu plus tard.
Oui,
ça.
Bien sûr. Non, mais à l'époque, donc, tout était sous la dépendance de...
C'était Chunon et la cour.
Chunon et la cour, tout à fait, Chunon et la cour. Et en Courtièche aussi.
Et en Courtièche, oui.
Oui, en Courtièche, oui. Voilà. Donc, en Courtièche, il s'appelle... Donc vous le saviez, pourquoi il s'appelait en Courtèche, oui, ce lieu.
Rappelez-le.
Ah non, mais c'était simplement la cour de la vicomté. C'est comme la cour, le village de la cour, c'était l'endroit où se situait la cour du vicomte. Oui, oui. Voilà, donc, excusez-moi. Non, mais c'est bon, vous pouvez continuer.
Eh bien, alors, dans ce roman... Excusez-moi.
Non, je vous en prie.
Dans ce roman, il y a de nombreux personnages historiques. Et les personnages historiques ont ceci de contraignant, c'est qu'ils sont liés à l'histoire. On ne peut pas leur faire dire n'importe quoi. On doit les situer aux bonnes dates, aux bons endroits. Et il y a une vingtaine de personnages historiques qui sont les comtes, on en a déjà parlé, mais il y a aussi les évêques de Saint-Lizier, parce qu'à l'époque, les évêques de Saint-Lizier avaient un pouvoir temporel. Ils étaient seigneurs de Tourtouze, ils étaient seigneurs de Bédin, ils étaient seigneurs encore d'autres localités. Donc l'Église avait un pouvoir spirituel et un pouvoir temporel.
Bon. Alors, quelles ont été les conséquences de cette opposition ?
Et cette opposition, sont arrivés les cathares et l'Église catholique a vécu cela comme une agression. Les ressources que l'on donnait aux cathares n'allaient pas à l'Église catholique. L'Église catholique avait des impôts, les cathares n'en avaient pas. Mais ils vivaient quand même de dons, dont ils sont entrés en conflit. Mais ensuite, il y a eu le roi de France, Philippe Auguste. La vicomté du Couserans a été toujours... en balance, toujours tiraillé entre le Comminges, entre Foix, entre Toulouse, et les deux vicomtes, Roger Ier et Roger II, ont constamment dû faire attention à leurs alliances. Ils étaient vraiment surveillés de tous les côtés. Donc c'était un jeu d'équilibre.
Un jeu d'équilibre d'autant plus important que, vu la situation géopolitique du Couserans, en particulier géographique du Couserans, c'était une voie d'accès royale entre Toulouse et le Val d'Aran et ensuite le Haut-Palliars. Donc oui, ça, c'est aussi un facteur qui rentre en jeu.
Bien sûr, par le port de Salon, il y avait qui était une voie de passage. Tout ça a fait que la vicomté n'était pas sereine.
Elle n'était pas sereine, elle était soumise à de multiples pressions.
Oui.
Voilà, donc, tout à fait. Et donc, est-ce que dans votre ouvrage, vous avez abordé ce thème-là, justement, de la situation géopolitique du Couserans ?
Oui, oui, ça se sent très bien. Oui, j'étais obligé de...
C'est un travail de documentation, surtout, à l'origine.
Là, ce sont des faits historiques. Après, oui. Donc, d'un côté, les personnages historiques, et puis après, les personnages de fiction. Alors, les personnages de fiction... l'auteur est beaucoup plus libre pour les faire vivre, pour leur donner des paroles. Ce sont des personnages, finalement, que l'auteur adore, parce qu'ils sont, ils sortent de lui.
Donc vous traduisez votre sympathie en permanence. Exactement. Une fois de plus, vous pratiquez l'empathie.
L'empathie, ou alors le...
Et la sympathie aussi.
La sympathie. Ou alors le... je n'irai pas jusqu'à la haine, mais enfin, on est en conflit avec certains personnages.
Donc vous prenez parti, en quelque sorte.
Et il faut prendre parti.
Tout à fait, voilà, tout à fait. Oui, oui.
Avec délicatesse.
Non, si l'on revient donc si on refait en quelque sorte une espèce de canevas de cette situation politique, on va faire un petit rappel, quoi. Donc d'une part, il y a l'Église, Saint-Lizier, les comtes de Comminges de Foix, de Toulouse, les rois de France et l'Inquisition aussi contre les cathares. Donc ça crée quand même, c'est vrai, un climat explosif.
Dernier élément et non des moindres, en 1233, le pape Clément IX instaure l'Inquisition. Il instaure l'Inquisition parce qu'il se rend compte que finalement, pour se débarrasser des cathares, il faut une puissance supérieure. Et les inquisiteurs sont vraiment... ils sont au-dessus des évêques, ils ont tous les pouvoirs. Et les papes se base là-dessus pour éradiquer
oui, l'hérésie, en quelque sorte. Oui, oui, bien sûr.
Les guerres se poursuivent à tel point qu'à un moment donné, le Toulousain, toute la région est à bout de souffle. Il faut dire que jusqu'à ce moment-là, les cathares étaient plutôt bien vus par les seigneurs à Pégéjoie. N'oublions pas que une sœur du comte de Foix, Esclarmonde, est devenu, devient cathare. Donc, les cathares sont plutôt bien vus par la population et par les seigneurs. Donc, le
oui, d'accord. Oui, donc, il y avait cette situation quand même, disons, à la fois généalogique, à la fois politique particulière aussi.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Oui.
Et donc, c'est avec l'arrivée de l'Inquisition, on peut dire que le catharisme perd ses racines.
Oui, parce que alors quel était donc le couserin? Est-ce qu'il participer à cette haine contre les cathares, ou est-ce que le couserin était plutôt branché sur l'Église catholique et le royaume, en quelque sorte?
Oui et non. Par période, il ne faut pas oublier que Simon de Montfort est venu à Saint-Lizier, tout de même. L'hérésie ayant perdu ses forces, sa puissance, le couserin est resté catholique, oui.
Oui, en général, il est resté catholique. Et les seigneurs couseranais, sur la noblesse couseranaise, a peut-être participé à l'Inquisition aussi. Sans doute. Enfin, là, je n'ai pas les renseignements.
Oui,
là, c'est une question que je vous pose. Oui. Parce que c'est très, vu la nébuleuse politique de l'époque, c'est assez difficile.
C'est très difficile.
D'avoir une position
de tranchée.
Oui. Voilà. Alors, donc cet ouvrage dont vous avez retracer cette nébulosité de la naissance du couserin. Vous avez parlé des forces en présence,
oui,
des rapports de force aussi. Mmh. Et quel est le thème de cet ouvrage? Et comme dans tous les romans, il y a aussi une intrigue amoureuse. Alors, est-ce que l'on retrouve tout cela? Donc, voilà, donc, il faut aussi être fleur bleue un petit peu. Donc, dans l'aridité de l'histoire, il faut peut-être placer une histoire amoureuse.
Oui.
L'histoire sentimentale.
Oui, et le héros, Guillaume, alors pour le situer, c'est un fils de vilain. Son père est un vilain.
Un vilain,
au Moyen-Âge. C'était un homme libre, par opposition au cerf, qui était, lui, on va pas dire esclave, mais enfin qui était dominé par le Seigneur.
Il était sous la servitude du Seigneur.
Voilà. Oui. Alors que le vilain, lui, était un homme libre. Donc, Bosque est un homme libre, mais il se fait que Roger Ier se marie, il a un fils, et la maman, n'ayant pas de lait, le fils est nourri par la mère de Bosque. Donc, Guillaume Bosque et celui qui sera Roger II sont ce qu'on appelle frères de lait.
Frères de lait, et en même temps unis par des complicités, je présume.
Et ensuite, oui, ils sont unis par. Ils passent leur jeunesse ensemble, et peu à peu, Guillaume passe au service du Seigneur, il devient écuyer, puis il devient chevalier, et puis il devient capitaine de ses gardes. Voilà l'évolution et ce qui lui permet de participer au siège de Toulouse, et au siège de Toulouse, il est d'ailleurs blessé. Et ensuite, il sera soigné par une dame cathare, une parfaite.
Oh là là, oui, ça complique tout.
Ça complique tout.
Oui.
Mais ensuite, il revient à Saint-Girons et il se marie avec la fille du meunier.
Oui, d'accord.
Voilà.
Donc, ce qui vous a donné l'occasion de redonner un cadre à la sociologie du couserin de l'époque.
Oui, oui, exactement. Tout le final se passe à Saint-Girons, dans le couserin.
Et donc, comment avez-vous fait pour quelles sont vos sources de documentation, en quelque sorte, qui vous ont permis de reconstituer le Couserans du XIIIe siècle, du début du XIIIe siècle, donc de la fin du XIIe.
Des lectures sur Internet.
Des lectures, des fiches.
Des fiches, oui.
Comme on dit, de façon... traditionnel, c'est un travail de Romain, en quelque sorte. Un travail de documentation qui a dû vous demander beaucoup de patience.
Oui, bien sûr. Mais c'est un plaisir aussi, quand on aime ça.
Et c'est tout à fait un plaisir, tout à fait. Et là, je vois que l'heure passe. Et nous allons aborder donc votre... Est-ce que vous avez un projet de littéraire pour les mois qui suivent? Est-ce que vous travaillez à un nouveau roman?
J'ai un projet, en effet, et un projet, c'est ce qui aime, c'est ce qui aide à vivre. Il faut toujours avoir des projets. Et j'ai le projet d'un roman qui se déroulerait dans le milieu étudiant, ce qui me permet d'introduire des personnages qui font des études différentes, philosophie, histoire, sociologie, économie, pour pouvoir les faire dialoguer. Ce qui...
Donc là, nous sommes en pleine dans l'actualité. Nous ne sommes plus dans l'histoire.
Pardon. J'ai toujours, en passant d'un livre à un autre, voulu changer de thèmes et de problèmes d'écriture.
Et de cadre aussi.
De cadre, parce que je trouve que cela est enrichissant. Ça demande bien sûr un investissement différent à chaque fois, mais c'est aussi le plaisir qu'on peut y trouver. Donc ça va être un roman d'actualité dans lequel je vais décliner des thèmes comme la démocratie, la laïcité, l'immigration, etc., les partis politiques, etc.
Et donc, alors, vous abordez des sujets très sensibles.
Des sujets sensibles que j'essaierai de traiter avec doigté.
Avec doigté et aussi objectivité.
Et objectivité.
Et vous n'avez pas peur qu'il y ait des réactions, parce que nous sommes dans une période marquée par de grosses polémiques, des polémiques qui s'enveniment. Donc, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des réactions à votre roman?
Je pense que j'aurai assez de recul pour présenter cela d'une manière, on va dire, intelligente.
Oui, mais de toute façon, tout le monde sait que vous êtes intelligent, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est quand même, vous allez aborder quand même des thèmes qui prêtent à discussion, qui parfois sont très passionnels et sont passionnés.
Oui.
Donc, qui sont passionnants aussi.
Oui.
Je ne doute pas que vous allez traiter tout ça avec brio.
Oui.
Mais quand même, il faudra sans doute que vous preniez.
Du recul.
Et quelques précautions sémantiques aussi, sans doute.
Oui, certainement. Mais ça va être tout le sel que je vais trouver dans cette écriture.
Un projet ambitieux, mais je ne doute pas que vous allez arriver.
Ce sera sans doute le dernier.
Non, il ne faut jamais dire que c'est le dernier. Non, ça ne sera pas le dernier. Pour l'instant, c'est le dernier. À l'heure actuelle, parce que vous y travaillez, donc vous vous consacrez à cet ouvrage. Donc c'est quelque chose qui est très important pour vous. Mais... Donc vous êtes obligé de suivre l'actualité, de lire
Exactement.
Les journaux,
Exactement.
Etc. Parce que,
ah,
et
oui.
plusieurs journaux, parce que chaque journal a déjà ses tropismes politiques, sociologiques. Donc ça demande que vous soyez attentif à plusieurs thèmes de l'actualité, dont plusieurs ouvrages. Il y a des thèmes, des journaux qui sont généralistes.
Vous avez tout compris, là.
Oui,
hein.
D'autres qui sont plus engagés politiquement.
Oui.
Donc il faut que vous fassiez quand même une synthèse. C'est quand même un travail très délicat, très difficile.
Oui.
Donc, et je ne peux qu'être émerveillé par ce projet très courageux.
Oui.
Je ne veux surtout pas vous décourager.
Non.
J'ai confiance en vous. Je vous connais un petit peu, donc je sais que vous arriverez au bout. Il n'y a pas de problème.
Je me pencherai aussi sur la vérité et le danger de... penser que l'on détient la vérité.
D'accord. Donc, vous vous opposez en quelque sorte à ceux qui sont des sachants. Moi, je détiens la vérité et
Oui.
À partir du moment où on a le où on pense avoir le monopole de la vérité, est-ce que tout cela n'aboutit pas à l'intolérance?
Voilà. Cela peut devenir dangereux. Ça peut. Voilà. Oui.
Parce qu'il y a des thèmes quand même.
Et par ailleurs, tomber dans le relativisme, c'est aussi un autre danger.
Voilà. Donc, à vous de surfer entre ces deux extrêmes.
Il faut trouver un équilibre.
Voilà. Donc, mais l'équilibre, c'est l'objectivité, et c'est aussi la recherche des documents et un travail d'honnêteté intellectuelle aussi.
Voilà. Voilà. Donc honnêteté intellectuelle.
Vous ne faites pas un travail de propagande. Voilà.
L'objectivité, ça peut se discuter.
Tout à fait.
Ça se discute, l'objectivité. Mais l'honnêteté intellectuelle, c'est quand on s'engage dans ce qu'on écrit. Et ça, c'est le plus important.
Là, déjà, ça, je ne suis pas à vos travaux, mais cela demande quand même une certaine forme de recherche. Surtout, avoir la possibilité d'exposer les différents thèmes.
Je vais partir de ce qu'on appelait les nouveaux philosophes et ce qu'on appelle aussi la déconstruction. Oui. La déconstruction, qu'est-ce que la déconstruction et comment peut-on en sortir? Parce que déconstruire, c'est joli, mais il faut reconstruire après.
Voilà, donc vous allez donc en quelque sorte aborder des termes sensibles qui vont vous pousser à des investigations dans le milieu politique dans une période où tous les enjeux politiques sont placés sous tension.
De la période moderne, nous allons passer à la période post-moderne. Que vient-il ensuite ? On le verra.
L'homme augmenté et tous les thèmes actuels, l'intelligence artificielle, je vois que vous avez encore beaucoup de thèmes à aborder. Nous allons, si vous le voulez bien, je vais vous demander de formuler une conclusion à cet entretien qui, ma foi, a été très agréable. Donc, vous avez une conclusion à formuler.
Ma conclusion, c'est que je vais remercier Jean-Joseph de m'avoir invité et d'avoir eu cette discussion qui est enrichissante pour tout le monde, j'espère.
Non, mais de toute façon, vous êtes le bienvenu sur les ondes, et si vous avez si vous ressentez le besoin de vous exprimer, les ondes vous sont ouvertes et le micro est à vous, si vous voulez. Donc continuez votre conclusion.
Lorsque j'aurai avancé dans mon écriture, on pourra peut-être refaire un point.
De toute façon, je suis tout à fait disponible. Il suffit que vous me contactez. Je pense qu'on se rencontre assez souvent. Et vous connaissez mes coordonnées téléphoniques. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis disponible.
Eh bien, nous en resterons là-dessus.
Alors, monsieur Claude René Souquet, j'ai été vraiment très heureux de discuter avec vous de ces thèmes que nous partageons beaucoup de pôles d'intérêt, donc c'est très intéressant de discuter de tout cela, et donc je vous dis à la prochaine fois, donc très rapidement je vois, et donc bonne soirée à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Merci René Souquet.
Merci à tout le monde.